Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est le moment de votre émission préférée, l'invité du 12-13. Un moment privilégié d'échange et de découverte des acteurs locaux, ceux qui font vivre votre territoire au quotidien. Nous accueillons aujourd'hui Aloé, Adour Land Océan Énergie, je précise. Nous avons dans le studio François Lefraîche, président, et Olivier Bonnour, vice-président. Bonjour messieurs, comment allez-vous ?
Bonjour.
Bonjour.
Très bien. Alors, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, ça tombe bien. Voilà, ça va avec. On va passer une heure ensemble, on va parler de ce que vous faites, vos réalisations et vos projets. On va d'abord partir écouter le Flash Info national et international que nous a concocté la rédaction. Et on se retrouve tout de suite après pour le début de cette émission. Nous voilà de retour avec nos invités. Alors, forcément, on va commencer par... vous allez nous expliquer un petit peu, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est que Aloé ? En quoi ça consiste, s'il vous plaît, messieurs ?
Donc merci pour l'invitation. Donc Aloé, c'est une société citoyenne qui investit et exploite des centrales. Donc on produit de l'énergie renouvelable sur le territoire des Landes. On est une société locale. Olivier et moi, donc on est des bénévoles qui animons cette société citoyenne, mm-hmm. qui compte aujourd'hui 107 coproducteurs et coproductrices qui détiennent des parts de cette société citoyenne. Mm.
Alors, société citoyenne, est-ce qu'on peut définir ce terme ? Qu'est-ce que ça, en quoi ça consiste exactement ?
Alors, une société citoyenne, c'est... Aloé a été créée par des citoyens. Donc en 2021, ce sont des citoyens qui ont mis leurs économies personnelles pour... donc en l'occurrence, c'était 25 000 euros donc pour créer cette entreprise. Et ensuite, on a un fonctionnement qui est... horizontale, c'est-à-dire que on a chaque actionnaire a une voix à l'assemblée générale, sachant que on peut devenir actionnaire d'Aloé en souscrivant une seule action à 50 euros. Mmh. En moyenne, les coproducteurs, coproductrices ont un peu plus de 400 euros d'action. Mmh. Et donc c'est un fonctionnement horizontal, c'est-à-dire que même des gens qui ont peu de moyens ont le même pouvoir à l'Assemblée Générale que quelqu'un qui aurait souhaité investir beaucoup au sein d'Aloé. Oui. Donc ça permet de... Voilà, c'est un fonctionnement très, très horizontal. Mmh. Et aussi une autre caractéristique, c'est que les cadres dirigeants, il y a l'Assemblée Générale qui décide de toutes les... au moins une fois par an, de toutes les évolutions de la société. Oui. Et tous les mois, voire plusieurs fois par mois, on se réunit avec Olivier et trois autres personnes, on est cinq, dans le conseil de gestion. Et le conseil de gestion, toutes les décisions sont prises de manière collégiale, c'est souvent, très très souvent à l'unanimité. C'est-à-dire que moi, président, ou Olivier, vice-président, on ne peut pas engager la société, c'est à chaque fois un collectif qui décide. Donc voilà, c'est ça les principales caractéristiques. Tu peux peut-être rajouter des choses, Olivier.
Oui, un des objectifs, et qui moi me tient à cœur, c'est que ça remet la gouvernance des systèmes de production d'énergie au sein de la société. Mmh. Et donc ça permet à des citoyens, simples citoyens, d'avoir son mot à dire sur comment est organisée la production.
Oui, ça n'a rien à voir qu'une entreprise, on va dire. Voilà. Alors ça ressemble un petit peu presque, j'allais dire, à une coopérative en fait.
On s'est inspiré, nos statuts s'inspirent des sociétés coopératives à travers ce fonctionnement, cette gouvernance dont on vient de vous parler. Mmh. On a aussi décidé d'adhérer au principe de l'économie sociale et solidaire, les US. Donc on n'a pas encore d'agrément, mais on y réfléchit, c'est quelque chose qu'on pourrait solliciter. Et notre ADN, c'est un ancrage local, c'est de faire travailler que des entreprises locales qu'on met en concurrence sur chacun de nos chantiers. Et donc c'est de créer de la valeur en fait sur les projets, avec, comme l'a dit Olivier, l'idée que les citoyens se réapproprient ces questions d'énergie. Donc à travers chacun de nos chantiers, on organise des réunions, des événements pour sensibiliser le grand public sur ces questions qui sont a priori un peu complexes, mais si on ne s'y intéresse pas, quelqu'un d'autre va réfléchir pour nous et décider pour nous.
C'est vrai.
Il vaut mieux s'y intéresser nous-mêmes. Et notre rôle, il est... on a aussi dans les partenaires, on en parlera tout à l'heure, mais les collectivités locales. Mmh. Donc nous, on ne vient pas se substituer ou remplacer ce que font très bien des communes ou des intercos. Mmh. On a un rôle complémentaire et on s'inspire notamment de ce qui se fait en Europe du Nord. Il y a au Danemark, en Allemagne, etc. C'est lié à l'histoire aussi des infrastructures énergétiques dans ces pays-là et à leur fonctionnement politique décentralisé. Mais les citoyens, les agriculteurs détiennent des parts très très importantes de tout ce qui est énergie renouvelable, éolienne, solaire, etc. Donc on voit qu'il y a des modèles qui fonctionnent et l'idée à travers Alloé, c'est à l'échelon local de développer ce genre de société citoyenne dans l'intérêt des citoyens. Nous, on fait ça bénévolement, on n'est pas intéressé au résultat de la société.
Ouais,
et l'idée, c'est de contribuer, même modestement, à la transition énergétique du territoire.
Ouais, ça, c'est pas loin non plus d'une association, hein, dans l'esprit. Hein. C'est une discussion que j'ai souvent avec des gens que je reçois ici, dans les associations. C'est aussi une manière pour que les gens, à la plus basse échelle, la maille la plus fine, prennent en main leur destin et les choses. En fait, c'est vraiment pour ça le terme de citoyen, c'est ça. En fait, c'est vraiment les gens qui peuvent, au lieu de subir, comme vous disiez, qui prennent les choses en main, qui vont être acteurs de ce qui leur arrive, notamment l'énergie, qui est quand même un sujet un peu critique en ce moment.
Oui. Et après, il y a nous, dans les fondateurs et même parmi nos membres, on est conscient que notre société, il y a la question de l'énergie, mais il y a plein d'autres thématiques sur lesquelles, en tant que citoyen, on peut s'investir. Je pense notamment à la question de l'agriculture, les difficultés qu'ont les agriculteurs pour avoir un revenu correct et les effets des pratiques intensives sur l'environnement et la santé. Et le fait que l'agriculture conventionnelle aujourd'hui émet beaucoup de CO2. Donc il y a tout un tas de thématiques sur lesquelles, en tant que citoyen, en tant que consommateur, on peut agir et faire des choses. Et là, ce qui est intéressant, individuellement, les fondateurs, on avait des préoccupations, des idées. Et en fait, c'est la démarche collective qui permet de mettre en œuvre des projets. On est plus fort en étant... soudés en étant dans une démarche collective.
Paraît que l'union fait la force.
Voilà.
Est-ce que c'est possible d'avoir une petite idée de votre parcours personnel à chacun, qui vous êtes, moi j'appelle ça encore une fois la trajectoire qui vous a mené jusqu'ici?
Alors je vais prendre la parole.
Allez, c'est Olivier qui s'y colle.
Ouais. Pour ma part, j'ai un passé d'ingénieur dans l'aéronautique, depuis reconverti dans l'informatique, mais... je suis bien entendu très préoccupé par les questions de transition écologique. J'ai même fait des reconversions et un master en bâtiment et énergie renouvelable. Donc oui, ça date pas d'hier, mon intérêt pour les énergies renouvelables et l'écologie en général.
Très bien.
Moi, je suis fonctionnaire territorial, je suis aménageur urbaniste et en formation initiale, j'ai fait Sciences Po à Rennes et un institut d'urbanisme à Lyon. Et donc, le cheminement vers les questions de bifurcation et de transition énergétique et écologique sont venus avec l'âge, avec l'arrivée de mes enfants aussi. Et il y a aussi l'accélération des phénomènes... climatiques, qui sont que des symptômes des effets du dérèglement climatique. Et en fait, petit à petit, via Alloé, via aussi le même collectif citoyen avait historiquement, donc en 2019, créé une association qui s'appelle Énergie Citoyenne Sud-Land. Donc petit à petit, en fait, je me suis formé, je ne suis pas du tout un spécialiste à la base du solaire photovoltaïque et des questions d'énergie, mais petit à petit, on s'est formé, on a accès aussi un réseau national qui s'appelle Énergie Partagée. Donc, on échange régulièrement avec nos homologues, parce que des collectifs comme le nôtre, il y en a plus de 350 en France. Et donc, voilà, c'est en échangeant qu'on arrive à se forger une opinion, sachant que l'énergie est un sujet complexe. L'idée, c'est de le vulgariser, de le rendre accessible à tout le monde.
D'accord. Et donc, vous communiquez avec eux. Il y a un flux d'informations et d'idées qui transitent entre chacun de vos groupes et ça permet, je suppose, d'être plus fort et puis plus mieux répondre à la problématique.
Tout à fait. Avec le dénominateur commun que nous avons avec tous ces collectifs citoyens, c'est donc la préoccupation, le premier niveau d'analyse, c'est de se dire que notre mode de vie actuel, basé sur la consommation de matières fossiles, gaz, pétrole, charbon, il est mortifère. Il y a déjà un effondrement en matière de biodiversité, d'insectes, d'oiseaux qui sont documentés. Donc il y a des rapports du GIEC qui se succèdent et qui expliquent, on en est certain, ça a été dans l'avant-dernier rapport du GIEC, on a arrêté de prendre des pincettes et de certifier que c'était bien les hommes qui étaient responsables du dérèglement climatique. Mmh. Donc, le diagnostic de base, c'est de se dire qu'il faut qu'on réduise nos consommations d'énergie fossile.
Oui.
Donc, pour cela, il y a trois leviers. C'est ce qu'explique très bien l'association Négawatt. Le premier levier, c'est la sobriété. C'est comment, à titre individuel ou collectif, on peut minorer certains usages, certains comportements. Ça peut être sur l'alimentation, les déplacements. Donc voilà, il y a des actions à titre individuel ou collectif qui peuvent être prises sur la sobriété. C'est le premier levier. C'est voilà, l'énergie la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc c'est là-dessus qu'à titre, nous, on essaie de le faire du mieux qu'on peut, nous, les membres d'Aloé. Donc et ensuite, le deuxième volet présenté par l'association Négawatt, c'est l'efficacité énergétique. Donc là, c'est à titre d'exemple, par exemple, mieux isoler sa maison quand on peut le faire. Et le troisième volet, c'est Aloé joue son rôle de ce point de vue-là, c'est le renouvelable, c'est-à-dire qu'on ne va pas, comme dirait l'autre, revenir au Amish ou à la lampe à huile. Si on veut maintenir un certain niveau de confort matériel au quotidien, nos usages vont s'électrifier. Et pour électrifier ces usages, il faut qu'il y ait des nouvelles unités de production. Et donc, l'idée avec Aloé, c'est d'avoir plutôt des petites unités de production. Il en faudra des grosses aussi. Hein. Par contre, c'est pas Aloé qui le fera, mais on en a besoin aussi. Mais l'idée, Aloé, c'est faire des petites et des moyennes unités de production sur des bâtiments publics, sur des sites qui sont déjà artificialisés. Et notre périmètre, on couvre 75 communes. Donc l'idée, c'est que petit à petit, on essaime et qu'on ce soit des projets démonstrateurs pour que les gens se rendent compte que c'est faisable, c'est dans l'intérêt du territoire, ça fait travailler les entreprises locales et puis ça permet de faire cheminer un peu tout le monde sur les questions de transition et de bifurcation énergétique.
Très bien, merci pour ces explications. On va faire notre première pause et on se retrouve tout de suite après. Alors, est-ce qu'on peut avoir des petits des exemples de réalisation, de projets sur lesquels vous avez travaillé qui ont eu lieu? Il y a une petite liste, on pourra vous en parler un petit peu, ça m'intéresse.
Oui, donc... Aloé a mis en service trois installations à l'heure où on se parle. La première a été livrée en janvier 2022 sur l'école communale de Josse. Donc c'est une installation qui fait environ 180 mètres carrés. Alors on peut parler de puissance installée, mais c'est des termes un peu techniques. On parle de 36 kW crête. Mais bon, c'est une installation qui coûte environ 36 000 euros. Donc on a notre modèle de financement. Donc c'est les citoyens qui financent ce type de centrale. Et à chaque fois aussi, on a des partenariats avec les collectivités locales. Donc en l'occurrence, sur les trois premiers projets qu'on a lancés, c'est l'intercommunalité Max qui a cofinancé aux côtés d'Aloé à hauteur de 10% chacun de ces projets. Et donc nous, une fois qu'on arrive à avoir 20% de financement, on peut aller chercher un prêt bancaire sur chacun de nos projets. Donc Josse en 2022, et en 2023, on a mis en service deux nouvelles centrales. L'une à Seignos, sur le nouveau centre de loisirs L'Île aux Couleurs, vers le Penon. De la même taille, même puissance que sur l'école de Josse. Et la troisième, c'est sur un bâtiment artisanal dans la ZEDA Atlantis Sud, qui était historiquement occupé par Happy Up, une association qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc là, c'est une centrale beaucoup plus grosse qui fait pas loin de un peu plus de 600 mètres carrés. Donc là, la particularité, c'est que dès le début, on a mis les panneaux, la toiture est est-ouest, parce qu'on se projetait sur le déploiement de l'autoconsommation collective, on en parlera peut-être tout à l'heure.
D'accord. Et alors, vous êtes plus sur l'utilisation d'existants plutôt que sur la construction d'embrières, si j'ai cru comprendre, enfin en tout cas dans les projets que j'ai vus pour l'instant.
Oui, alors en fait ça vient de... Les premières démarches qu'on a eues, c'est relativement binaire. C'est, alors, au début, donc, il y avait le maire de Josse qui avait un projet, donc c'est comme ça que ce premier projet était engagé. Et ensuite, on est allé au-devant des maires et des intercommunalités en disant « Regardez, là, vous avez tel bâtiment, votre école, votre mairie, il y a une super toiture bien exposée, pourquoi vous ne l'exploitez pas ?»
Oui, c'est sûr.
Et pourquoi vous ne confiez pas à des citoyens la responsabilité de faire ce projet? Donc voilà, c'est comme ça que nos premiers projets ont été engagés. Et puis l'idée, c'était aussi de faire nos preuves. Maintenant, c'est les mairies qui nous appellent, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans.
Comme c'est bon signe.
Et alors, pour le coup, les embrouillards, ça coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus cher, donc c'est moins rentable. Donc il faut d'abord qu'on fasse nos preuves sur des projets et qu'on arrive à avoir une certaine rentabilité financière sur des projets sur des toitures avant de se lancer sur des projets plus complexes et moins rentables en ombrière.
Ouais. Après, c'est vrai que c'est peut-être plus facile à faire passer le message en sachant que voilà, c'est déjà une surface qui est existante, qui est entre guillemets inutile. Voilà, elle produit rien, plutôt que d'aller construire quelque chose qui va servir à. C'est sûr que voilà, c'est alors cette problématique, on a parlé un petit peu hors antenne. C'est moi je disais à titre personnel que je regrette tellement que tous les toits de France et de Navarre, comme on disait autrefois, ne soient pas couverts de générations d'eau solaire ou de d'électricité solaire. C'est quand même dommage. Ça. Mais pourquoi donc? Que se passe-t-il?
Alors, il n'y a pas de raison a priori, hormis que ça nécessite des investissements qu'il faut faire financer. Après, il y a parfois des oppositions. Donc, on peut avoir les architectes des bâtiments de France qui refusent des installations photovoltaïques. Il y en a de moins en moins, mais enfin, ça existe toujours. Mmh. Et puis, voilà, après...
Il y a aussi le fait que, pendant des décennies, la France est... a eu une électricité pas chère fournie par les infrastructures nucléaires, et la nécessité de produire plus d'électricité, décarboner nos consommations, etc., elle est relativement récente, donc elle n'est pas encore rentrée dans les mœurs, et il y a eu des incitations fiscales, mais qui ont tendance à disparaître. Après, il y a la réglementation aussi, dans les documents d'urbanisme ou de la réglementation thermique, il y a quand même un certain nombre d'obligations qui amènent, selon les typologies de bâtiments, qui amènent quand même à ce qu'il y ait de plus en plus de production d'énergie renouvelable.
Oui, il y a une différence de traitement, j'imagine, entre le simple particulier et des bâtiments administratifs ou collectifs, au niveau de la législation, sur la manière de gérer ce genre de choses.
Dans les documents d'urbanisme, généralement, il y a des obligations plus fortes, effectivement, sur les bâtiments professionnels, bureaux, locaux commerciaux, locaux industriels, pour que ces bâtiments neufs soient équipés. Et plus récemment, il y a eu aussi des obligations pour équiper d'ombrières les parkings accessibles au public d'une certaine taille. Mmh. Jusqu'en juillet 2028, normalement, il y a des obligations d'équiper ces parkings accessibles au public. Donc ce qui va dans le bon sens, c'est de dire qu'il faut équiper des zones déjà artificialisées autant que possible préserver nos espaces agricoles, naturels et forestiers.
Oui, c'est vrai. Et puis alors, c'est vrai que les ombrières, alors sur les parkings, notamment par exemple sur le supermarché, etc., ça commence à se faire de plus en plus, c'est quand même vachement bien pour l'usager. Parce que l'été, la voiture, elle est brûlante, on crève de chaud. Voilà, et l'hiver, quand il pleut, etc., ça protège aussi. Alors si du coup on a un toit par-dessus les voitures qui permet de protéger les intempéries et de créer l'électricité, c'est quand même tout bénéfice, tant qu'on n'enlève pas trop d'arbres.
Complètement, c'est des bénéfices induits et effectivement, nous on est très attachés au fait de ne pas devoir couper des arbres pour pouvoir planter des panneaux photovoltaïques.
Bah oui, voilà, parce que voilà, c'est pas de re-artificialiser des endroits qui ne le sont pas, c'est plutôt utiliser des zones qui sont déjà bétonnées ou bitumées. Voilà, c'est surtout quand on se retrouve dans un paradoxe, maintenant on commence à dépenser des millions d'euros pour casser des choses qu'on a fait un jour en se disant ah mince, c'était peut-être pas une bonne idée en fait, vis-à-vis de la chaleur et vis-à-vis de l'écoulement de l'eau. C'est... Dans les nouveaux travaux, on voit d'ailleurs, on met souvent des pavés avec dedans de la terre et des herbes qui poussent, etc., plutôt que mettre des zones étanches, hein, puisque voilà, ça permet de gérer l'écoulement des liquides de manière différente. Alors voilà, le soleil donne ici aussi, et quels sont les projets, qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui va se passer, parce que vous allez vous développer, j'ai bien compris.
Alors, on peut déjà parler des projets qui sont en construction.
Oui.
À Saint-Vincent-de-Tyrosse, on a deux projets en cours. Il y en a un qui est en train d'être construit en ce moment même, qui est sur le centre Touraine.
Donc d'accord.
C'est un projet de 72 kilowatts de crête.
Mmh.
Et il y en aura un autre sur l'école de la Souk, un tout petit peu plus gros, 100 kilowatts de crête, qui va être fait dans l'année.
D'accord.
À part ça, on a quand même pas mal de projets en étude, des communes qui nous ont sollicité. À Misson, on a un projet avec une centrale à la fois sur l'école et la mairie. À Saint-Martin-de-Seignance, il y a un projet qui a assez avancé, c'est le projet sur la médiathèque. Donc une centrale là encore d'à peu près 100 kW crête. Et enfin, sur Angres, l'école maternelle et l'école primaire qui sont aussi dans les cartons. Mmh. On a aussi, pardon, il y a Oyregave, il y a Oyregave, la salle des fêtes aussi, qui est en cours. Et un projet qui vient de sortir, c'est celui d'Orx, qui va bientôt être déposé.
D'accord.
Et qui devrait sortir prochainement.
Alors, sur l'école d'Orx.
Sur l'école, oui, d'accord. Très bien. Alors moi, ça me pose la question parce que j'entends, voilà, effectivement, tous les bâtiments sont concernés. Est-ce que ça pourrait concerner aussi les particuliers? Si moi, j'avais envie, moi, de mettre, je sais pas combien, 15, 20 mètres carrés sur ma maison, etc. Est-ce que c'est envisageable, ce genre de projet?
En théorie, oui, mais quand on a créé Alloé, et pour l'instant, notre stratégie n'a pas évolué de ce point de vue-là, l'idée, c'est d'inciter les gens à financer des projets. C'est plus simple de considérer qu'une école ou une mairie, c'est le bien commun.
Mmh, oui.
Alors que si c'est chez un particulier, ça peut prêter à confusion. Mmh. Et si vous voulez, et le temps qu'on peut passer à la mise en œuvre d'un projet entre les études, donc on s'occupe de tout. Hein,
oui, oui.
On se répartit ça entre bénévoles. Donc il faut mettre en concurrence des installateurs locaux, définir un projet, faire des études de faisabilité. Il faut qu'il y ait une étude par rapport, s'assurer que la charpente soit correctement dimensionnée. Mmh. Il faut aller ensuite chercher des subventions. Je le mentionne maintenant, il y a la région Nouvelle-Aquitaine qui peut financer les projets comme ceux portés par Alloé. Après, il faut convaincre un banquier de prêter de l'argent. Enfin, si vous voulez, toutes ces démarches, que vous fassiez un projet de 20 mètres carrés ou de 300 mètres carrés, c'est le même, grosso modo, c'est le même temps.
Vous voulez faire un gros chantier que plein de petits. Bah, en fait,
oui, on n'a pas le temps, on est des bénévoles, donc on préfère concentrer notre temps, le cerveau disponible sur des projets d'une certaine taille, sinon Alloé ne fonctionnerait pas.
Ouais. Alors aussi, j'ai une idée vraiment toute bête, mais du coup, est-ce que, alors, j'imagine grande toiture, on met une grande surface de panneaux solaires, malgré le fait qu'ils soient noirs, est-ce que ça atténue pas un peu l'impact de la chaleur directe du soleil sur le toit? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau, bon, je pense au réchauffement climatique, l'été il fait très chaud, voilà. Est-ce que parce que ça met une barrière, hein, une barrière avant que le soleil n'arrive sur le toit. Est-ce que ça, on peut considérer que ça peut-être refroidir un petit peu l'impact sur la maison? Enfin, c'est une question.
Ça a un impact. Alors d'autant plus que maintenant les panneaux solaires sont plus intégrés à la toiture. En étant en surimposition, il y a une ventilation par-dessous. Mm-hmm. Ça a un effet d'écran et pour le confort d'été dans un grenier, dans des pièces en soupente, il y a pas de problème, ça a un effet.
Et voilà, non, mais ça peut être un argument aussi. Enfin, c'est vrai que j'ai mon bureau sous les toits, même si c'est bien isolé, ça m'arrive d'avoir 35 ou 36 euros dans la pièce. Donc j'imagine que tous les bâtiments, il y a déjà cet impact-là. On coupe le soleil avant qu'il arrive sur les tuiles, voilà. C'est un argument aussi.
Je voulais juste compléter par rapport à la liste qu'a effectuée Olivier. Donc je le précise, sur notre site internet qui s'appelle aloe40.fr, A-L-O-E-40.fr.
Il y aura un lien dans le podcast.
Vous avez sur notre page nos réalisations, vous avez le détail de tous les projets livrés et de tous ceux listés par Olivier. Donc c'est des projets concrets qui sont engagés avec des autorisations signées, des autorisations d'urbanisme obtenues ou en cours. Et il y a un petit défi qui est intéressant. Commune par commune, on a mis une petite barre pour voir la progression de la souscription des citoyens. Donc si ça peut créer un petit peu d'émulation. Par ailleurs, on a d'autres projets dont on ne peut pas parler aujourd'hui, mais il y a d'autres projets qui vont être signés. Donc on a d'autres développements qui vont venir, toujours sur le même schéma. Donc Alloé qui... investit et exploite ces centrales. Donc je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est pendant 25 ans qu'on exploite ces centrales. Oui. Et à l'issue de cette occupation, contre laquelle on verse une petite redevance au propriétaire, il est possible, le propriétaire peut récupérer la pleine propriété de l'installation qui produira encore à plus de 80%. Donc c'est des installations qui vont durer longtemps.
Oui.
On a aussi un autre projet dont je tenais à parler. On a été désigné en septembre de l'année dernière lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt qui avait été organisé par la communauté de communes Max. On a constitué une équipe allouée avec la SEM départementale Enerland et avec, je l'ai mentionné tout à l'heure, Énergie Partagée. Il y a une structure nationale qui fait de l'investissement aux côtés des petits collectifs citoyens comme le nôtre. Donc on a été avec Enerland et Énergie Partagée Investissement, on a été lauréat pour équiper des sites communaux sur 8 communes. Enerland, Alloé, EPI, on va mettre des ombrières sur des terrains de pétanque, des terrains de basket, etc. Donc c'est des chantiers qui sont prévus l'année prochaine. On fait les choses nous-mêmes. Et pour les projets plus gros, on peut être partenaire, par exemple, de la SEM départementale qui, comme nous, a une vocation à œuvrer à l'échelon local sur la transition énergétique.
Bien sûr. Ça a l'air d'aller pour vous, dans le sens où on voit quand même se dessiner une augmentation de la demande et votre activité va y en avoir de plus en plus. Remarque, c'est le but aussi, c'est qu'il y en a de plus en plus. Voilà, c'est bon. Ce qu'on va faire, on va faire un, notre dernière pause. Ça sera l'occasion de faire un petit appel aux auditeurs aussi, de leur dire que vous avez besoin d'eux et leur expliquer que c'est intéressant. Notamment, vous avez expliqué que le simple fait d'être actionnaire avec une seule unité permettait d'avoir une voix qui a la même valeur que celle des autres. Et ça, par les temps qui courent, c'est pas mal. On se retrouve tout de suite après cette dernière pause. Alors, on va parler un petit peu d'actu. Hein. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui vient?
Alors, Aloé, on est partenaire de Enercop Nouvelle-Aquitaine, qui organise un événement à l'échelon départemental qui va se tenir samedi prochain, donc la semaine prochaine, pardon, le 24 mai à Saint-Martin-de-Seignance, à partir de 13h45. Donc ça, vous pouvez avoir nos infos sur notre site internet. Donc il y a toute une après-midi pour parler et réfléchir autour de la transition énergétique. Donc c'est à Saint-Martin.
Et il y aura aussi un autre événement qui sera toujours à Saint-Martin-de-Seignance. Ce sera le 14 juin, il y a la communauté de communes qui organise le forum de la transition environnementale. Et donc, bien sûr, Aloé sera présente. Et donc, on sera présent le matin. Et le soir, ce sera aussi le jour de notre assemblée générale. Donc, on invite tous les volontaires à nous rejoindre.
Ah oui, un moment important. Un moment important. Oui, alors je veux aussi que vous participiez à la fresque du climat avec Fab Lab de Souston, qui font partie de nos partenaires, des gens qu'on apprécie beaucoup. Juste un petit mot sur ça, rapidement.
Le Fab Lab, en fait, il y a des gens formés pour faire de l'éducation à la science, parce que c'est aussi ça pour réfléchir au climat et à la consommation et la production d'énergie, c'est de respecter le travail de nos chercheurs, ce que ne font pas tous les hommes politiques aujourd'hui. Et donc le Fab Lab, donc, ils font des interventions dans les écoles. À chaque fois qu'on a un projet dans une commune, on prend en charge, il y a parfois Max qui cofinance également, on prend en charge donc des petits ateliers pédagogiques dans les écoles. Et la fresque du climat, donc ça c'est des bénévoles d'Aloé qui proposent dans chaque commune d'accueil du projet aussi de ces petits ateliers pour comprendre les causes et les conséquences du dérèglement climatique.
Très bien. Et bien, il reste aussi à faire un petit appel aux gens, à s'adresser directement aux gens. On fait du bouche à oreille, nous, à la radio.
Alors... déjà, à nouveau, merci pour l'invitation. Donc, la question que vous nous avez posée tout à l'heure, c'est pourquoi rejoindre Aloé. Je vais vous faire une réponse assez simple. Faire partie d'Aloé, ça fait du bien. Ça fait du bien, par exemple, si vous êtes éco-anxieux ou que vous vous dites « mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour agir ?» concrètement sur la transition énergétique, la bifurcation écologique de mon territoire. Y a un premier niveau d'implication, c'est de souscrire des actions à l'OE. Ça permet de faire des projets concrets près de chez soi, faire travailler des boîtes locales. Donc ça, c'est faire du bien. Ça peut aussi... Il y a des gens, tout le monde n'est pas forcément sensibilisé à ces questions-là. Ça peut aussi faire du bien au portefeuille, parce que quand vous souscrivez une action à l'OE, elle a une certaine valeur dans notre prévisionnel. À partir de 2028, on est censé verser des dividendes équivalents à un livret d'épargne populaire, en gros. C'est les principaux arguments. Après, la première démarche à faire, c'est la démarche collective. Et vous pouvez aussi, je vais terminer par ça aussi, c'est l'aspect collectif, c'est-à-dire qu'on est ouvert à l'apport de nouvelles personnes, nouvelles compétences qui peuvent, en tant que bénévoles, passer un peu de temps pour développer ces projets, travailler sur la transition. Et à titre individuel, la première chose à faire, c'est quand même de faire son bilan carbone. Donc, aller sur le site de l'ADEME, Nos gestes climat, ça prend 15-20 minutes. Et au moins, vous pouvez commencer à réfléchir aux questions sur lesquelles nos enfants et nos petits-enfants ne manqueront pas de nous poser beaucoup de questions.
Eh oui, c'est vrai que des fois, l'argument des gens pour se désengager ou de se responsabiliser, c'est de dire moi tout seul, je ne peux rien faire. Bon, là, je fais un clin d'œil, il y a une association qu'on a reçue, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Voilà, donc ça permet de fédérer son action, de rejoindre un mouvement tel que le vôtre et d'additionner les petites volontés des personnes pour qu'il y ait ensuite un événement, quelque chose qui se passe concrètement.
C'est ça.
Voilà. Ben, on va se quitter sur ça, messieurs. Merci beaucoup d'être venus.
Merci.
Voilà, c'est à la fois intéressant et engageant parce que voilà, ça donne une perspective d'avenir aussi et pas d'être juste. Donc on n'est pas juste forcément dans la position de subir les choses, mais voilà, il faut qu'on agisse, n'est-ce pas? Merci beaucoup, messieurs, et merci d'être venus.
Merci, à bientôt.
Au revoir.